au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour, c'est parti pour un plaquage ou pour une mêlée, comme vous voudrez. Il s'agit évidemment de rugby. Le dictionnaire du rugby, l'ovalie dans tous ses sens, c'est préfacé par Serge Kampf. Et c'est Sophie Lavignas qui est l'auteur de ce dictionnaire publié par les éditions Honoré Champion. Sophie Lavignas, bonjour.
Bonjour.
La première question qui se pose inévitablement, et on a dû vous la poser à de multiples reprises, Sophie Lavignas, comment se fait-il qu'une femme, quand même, s'intéresse au rugby? Franchement, c'est un sport de brut, non, le rugby, Sophie Lavignas?
Alors oui, c'est effectivement un sport de brut. On dit bien que c'est un sport de combat, c'est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen, ou alors un sport de gentlemen pratiqué par des voyous. Moi, ce qui m'a animé justement dans ce travail, c'était mon goût pour ce sport, qui certes est viril, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le contact. C'est donc, comme je vous disais, vraiment un sport d'affrontement, un sport de contact, mais c'est également un sport qui véhicule énormément de valeurs, que ce soit la fraternité, la loyauté, le respect, mais le respect vraiment sous toutes ses formes, le respect de l'arbitre, le respect de l'adversaire.
Y compris dans les tribunes, hein ?
Exactement, le respect vraiment du public envers les joueurs adverses. Donc voilà, c'est toutes ces valeurs-là qui, moi, me plaisent. Et puis, étant originaire du Pays Basque, donc c'est vrai que c'est un sport qui, là-bas, est le sport roi. On ne peut pas faire 10 km sans voir un terrain de rugby. Donc c'est vrai que c'est vraiment ancré dans la civilisation du Pays Basque, à côté de la pelote basque et du surf, bien sûr. Voilà, c'est vraiment un sport qui est très, très
pratiqué.
Voilà.
Petite Sophie Lavignas, vous alliez au stade ?
Petite, non, mais je regardais bien sûr les matchs, parce que ça bouge beaucoup dans les tribunes. Mais voilà, c'est vraiment une passion qui m'anime depuis longtemps.
Il y a une
longtemps.
Transmission familiale vous concernant ?
Oui, il y a une transmission familiale. Il y a eu également la rencontre avec mon futur mari qui... sans parler de grands clubs, mais bon, il en a fait au lycée, il en a fait dans des clubs locaux. Dans sa famille, effectivement, c'était des pratiquants, c'était également des personnes qui suivaient tous les matchs. Donc voilà, ça c'est un
On
peu...
On se marie entre famille à rugby.
Voilà, c'est un peu ça,
Alors voici un dictionnaire. C'est la question que je me suis posée quand j'ai reçu votre ouvrage. Mais bon sang, ça n'existait pas avant, un dictionnaire du rugby ?
Non, ça n'existait absolument pas. Alors, il y a bien sûr eu des ouvrages qui sont sortis avec le terme « dictionnaire du rugby ». Il y a eu, par exemple, le dictionnaire amoureux du rugby d'Herrero, qui est un ouvrage qui est vraiment très plaisant, très agréable à lire. Mais ce n'est pas dans notre jargon. Donc moi, je suis lexicographe de profession, donc c'est-à-dire auteur de dictionnaire. En tant qu'auteur de dictionnaire, je ne peux pas appeler le dictionnaire du rugby un dictionnaire. C'est un ouvrage qui est très agréable, qui pioche des termes qui sont très importants dans la culture du rugby. Il y a ailier, il y a élastoplaste. Donc c'est vraiment des termes qui sont propres à la civilisation du rugby. Mais on a une espèce d'essai autour de chaque terme. Donc c'est un espèce de chapitre, en fait. Donc c'est pas un dictionnaire au sens propre du terme, au sens lexicographique.
Qu'est-ce que c'est un dictionnaire au sens propre du terme, alors ? Pour le rugby, bien sûr, voilà. Mais quelle est la plus-value, en fait, d'un dictionnaire ?
Alors, en fait, j'ai suivi le DSS de lexicographie et de terminographie à Lille. Et en fait, j'ai été formée comme si je faisais des dictionnaires pour le petit Robert. Voilà, on prend le concept du petit Robert et on l'adapte au domaine du rugby.
Quel est ce concept ?
Donc en fait, il y a des entrées, c'est-à-dire les termes qui sont à définir, plaquage, cadrage débordement, mêlée, attaque, etc. Et à la suite de ça, on a des définitions donc qui sont rigoureuses, qui sont scientifiques, avec une tournure qui est propre à la rédaction d'un dictionnaire. C'est pas la rédaction d'un essai, c'est pas la rédaction d'un roman, c'est vraiment la rédaction d'un dictionnaire.
Donc très peu de part à la subjectivité.
Ah, complètement. Complètement.
Il faut là, c'est absolument vraiment un travail pas... scientifique.
Oui,
hein.
Il faut absolument pas, justement, le dictionnaire n'est pas là pour porter un avis ou porter un jugement. On est là pour définir des termes, donc si les termes existent dans la langue du rugby, ils sont référencés. Effectivement, le lexicographe ne doit pas porter de jugement sur un terme existant. Il y a des définitions, il y a des citations. Donc ces citations-là sont extraites la plupart du temps de sites internet, parce que c'est là où, finalement, c'est le plus vivant, c'est là où on a des termes qui sont... Oui, très vivant, c'est vraiment le terme.
Usité par les internautes, puisque ce sont eux, en fait, qui font vivre ces mots
voilà.
aussi.
Voilà, eux, les journalistes...
Mais il n'y a pas des sources un peu contradictoires sur Internet, parce qu'il y a un peu de tout aussi sur
Alors,
il
faut savoir trier.
C'est
oui.
ça.
Il faut savoir trier. J'ai mis énormément de temps pour un seul terme. J'ai mis énormément de temps pour trouver la bonne citation.
Lequel ?
À tous les termes.
À tous les termes ?
Tous les termes.
Ah, oui.
En tout, il y a 1600 termes qui sont définis dans ce dictionnaire. Pour chacun des termes, j'ai essayé de trouver une définition et une citation qui soit vraiment le plus juste et le plus correct possible.
Et ça a été si difficile que ça de pouvoir vérifier vraiment la pertinence du terme au regard de la définition ?
Oui, parce que déjà, dans un premier temps, il fallait référencer les termes. Dans un premier temps, ça a été j'en ai 50, j'en ai 80, j'en ai 100, puis après 200, 300. Là, on arrive au final à quelque chose de relativement complet qui tend vers l'exhaustivité avec 1600 termes définis.
C'est 4 ans de travail.
8 ans.
Alors, tout dépend par où on commence. Quand vous avez eu l'idée, c'était il y a 8 ans.
Oui, c'était en janvier
2000. Et la partie opérationnelle proprement dite
J'ai jamais arrêté de travailler dessus parce que j'ai toujours cru dans mon projet, justement parce qu'on disait qu'il n'existait pas de dictionnaire du rugby. Je suis en train de penser à l'instant, il y a par exemple les ouvrages de Serge Simon, les dictionnaires absurdes du rugby, donc ce petit est un œuf dur, bon voilà. Donc c'est des ouvrages qui sont passionnants à lire parce qu'on retrouve vraiment le parler de quand on est sur un terrain de rugby, vraiment les exemples.
Il y a la passion, le folklore.
Ah,
et ça, vous avez voulu justement vous en...
M'en détacher un petit peu.
Vous en détacher précisément pour avoir ce caractère scientifique.
Oui. Ah, oui, oui, oui.
C'est un ouvrage de langue française, quasiment.
J'allais dire de langue rugbystique. C'est-à-dire qu'on on part du terme, on référence le terme. Et en partant de là, j'essaie de trouver la définition la plus correcte et qui soit concise, parce que bien sûr, on est quand même limité par rapport au...
C'est 400 pages quand même.
616 pages.
607 pages, attendez, j'ai 400 pages là. Alors, 400 pages avec plus de 1400 entrées.
Alors, ça, c'est la partie dictionnaire. En fait, l'intégralité...
Ah oui, parce qu'il y a l'encyclopédie, on en parlera.
Voilà.
D'accord.
Voilà.
Alors, allez-y sur l'encyclopédie quand même, parce qu'il y a deux parties. La première partie dictionnaire et la seconde encyclopédie.
La partie dictionnaire qui va référencer des noms communs, qui va référencer donc des actions, des régionalismes, tous les termes techniques. Il faut savoir que tous les termes qui sont dans les règles du jeu, qui sont édités par la FFR et par l'IRB, sont présents dans le dictionnaire. Donc c'est vraiment quelque chose de scientifique.
J'en prends un comme ça au hasard, Sophie Lévinas. La cravate, par exemple. Acte de jeu dangereux qui consiste à raidir son bras et à frapper l'adversaire au niveau de son cou ou de sa tête pour le stopper dans son action. Ce geste est interdit. Il est donc sanctionné par un coup de pied de pénalité. On pourra se reporter donc à ces autres mots. Puis là, vous avez une citation. Max Guizini, président du Stade français, crie au scandale après que la commission de discipline a jugé que Perugini ne méritait pas de carton rouge sur la cravate sur Dominici, victime d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Il s'agit du match Italie-France, 13-56. C'est le score ou le résultat, si on est français. Tournoi des Six Nations 2005, extrait de rubyrama.com. Puis après, vous avez encore quelques indications qui nous indiquent que l'on peut se rendre justement à coup,
voir
à quoi correspond la définition de coup. Donc, c'est vraiment le principe du dictionnaire.
Oui, complètement. Il faut savoir que dans une définition, tous les termes qui sont présents dans les définitions sont définis dans le dictionnaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un terme, en tout cas qui appartient à la langue du rugby, il n'y a pas un terme qui est absent de ce que nous, on appelle la nomenclature. Donc, c'est-à-dire l'ensemble des termes qui sont définis. Les termes qui sont définis sont comme dans n'importe quel dictionnaire. J'ai mis un astérix. Donc, par exemple, là, vous avez lu la définition de cravate. Donc, on pourra aller voir la définition de jeu, donc de jeu dangereux ou de coup de pied de pénalité.
Ce qui, évidemment, est un peu vertigineux quand on écrit un dictionnaire, c'est l'inflation des entrées.
Oui.
Vous dites à un moment, il faut que je m'arrête, quoi.
Oui et non. C'est-à-dire que dans un premier temps, je ne pensais pas arriver à autant de termes. Je ne pensais pas arriver à 1600 termes. Je vous dis, au départ, j'en étais à 100, 200, et bon, je voyais pas trop. Je continuais dans mes recherches, dans mes lectures. Et il se trouve que à chaque fois qu'on pense à une idée, moi, j'ai appelé ça des séries. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur des séries. Je vous donne un exemple. Il suffisait que je pense à la 89. Donc, la 89, c'est une combinaison. Pour qu'ensuite, je me dise, mais si je traite la 89, il faut que je traite l'ensemble des combinaisons. Donc là, il y a la combinaison qui s'appelle la brune, il y a la blonde. Autre exemple, si je traite les danses guerrières, si j'en traite une, par exemple...
On a entendu parler du fameux AK.
Le fameux, là, voilà, c'est vraiment celui au sel, parce que c'est soit une danse guerrière, soit un chant guerrier. Donc, la traduction varie.
Néo-zélandais.
Voilà, le AK néo-zélandais, eh bien, ça entraîne de définir toutes les danses guerrières. Donc, le Simbi, le Sipito, etc.
Les autres, on les connaît moins.
Les autres, on les connaît moins. Ceci dit, lors de la Coupe du Monde, quand on voit, par exemple, l'équipe du Tonga qui affronte l'équipe de la Nouvelle-Zélande, là, on a deux chants guerriers.
D'où l'intérêt du dictionnaire, justement, d'aller se reporter à ces autres noms que l'on connaît un peu moins, ou du moins que l'opinion connaît un petit peu moins. C'est justement l'intérêt. Mais alors, une chose me frappe aussi quand on parcourt votre dictionnaire tout à fait passionnant, Sophie Lévinas, c'est que le rugby est un sport bigrement technique.
Oui. C'est très, très technique. Les règles sont très complexes. C'est-à-dire qu'il y a toujours une règle de départ et après, il y a maintes et maintes exceptions. Il faut savoir que, par exemple, le coup de pied de pénalité, il va sanctionner 126 fautes. Donc, c'est colossal. C'est-à-dire que les règles, ben, à chaque fois qu'il va y avoir un cas particulier, il va y avoir une sanction. Donc, le coup de pied de pénalité, c'est la sanction, j'allais dire, la plus élevée avant le carton jaune et le carton rouge. La sanction légèrement en dessous, c'est le coup de pied franc. On appelle également coup franc, mais j'évite de dire coup franc parce que, bon, dans le lexique du football, par exemple,
le coup franc,
ça
oui.
a un autre sens.
C'est le mur à 8
voilà,
mètres.
Voilà, donc c'est le coup de pied de franc et le coup de pied de pénalité.
À l'image, c'est la même chose, un coup franc et un coup de pied de pénalité ? C'est-à-dire que c'est le ballon qui est en face de l'endroit où on doit faire passer des deux barres ?
Alors voilà, le coup de pied de pénalité, c'est-à-dire que le buteur va se situer... Alors, il y a tellement de cas particuliers. Bon, il se situe souvent là où le ballon est sorti, c'est-à-dire sur une droite qui est perpendiculaire à la ligne de touche, pour justement faire passer le ballon...
Dans les deux cas, c'est un peu la même physionomie, c'est-à-dire c'est d'un tir par un seul tireur, par un buteur.
Par un buteur,
un
oui.
buteur. On l'appelle le buteur, d'ailleurs, pas
Alors,
le tireur.
Alors, non. Beaucoup moins. D'ailleurs, il y a une distinction entre buteur et botteur. Le buteur, c'est justement celui qui va faire les tirs, justement les coups de pied de pénalité. Un botteur, par contre, alors, il faut savoir que très souvent...
Alors, un botteur, dites la définition
du
botteur dans
et,
ce cas.
Et le botteur, donc, c'est celui tout simplement qui donne un coup de pied. C'est le coup de botte, en fait. On va donner un coup de crampon. Mais très souvent dans les médias, peut-être par rapidité, j'ai trouvé très souvent le...
La confusion entre botteur
ouais,
et buteur.
Ouais, ouais. Donc ça, dans mon article, c'est justement marqué parce qu'on a tendance un petit peu à confondre les deux. Donc ça, l'article buteur. Donc après une définition dont on parlait tout à l'heure et puis la citation, j'ai décidé de créer des remarques encyclopédiques. Parce que je trouvais intéressant, donc ça peut porter sur des événements historiques donc qui touchent le rugby, ça peut porter sur des règles, ou ça peut porter sur...
Des pays.
Voilà, des pays également.
200 pages donc, hein, à peu près d'encyclopédie.
Je reviens au terme buteur, donc le poste de buteur requiert une grande précision dans les tirs, alors que le poste de botteur requiert davantage une grande puissance. Le buteur ne tape pas forcément tous les coups de pied. En ce sens, buteur s'oppose à botteur, puisque le buteur marque les pénalités et transforme, alors que le botteur tape des coups de pied de dégagement.
Voilà une distinction sémantique tout à fait importante
voilà,
que
oui.
les spécialistes connaissent, mais que le grand public, justement, pourrait apprendre à acquérir voilà. à la lumière de votre dictionnaire. Est-ce que vous pourriez, Sophie Lavignas, arbitrer un match de rugby ?
Non.
Non ?
Non, parce que...
Parce que là, vous avez accumulé de telles connaissances.
Oui, mais c'est vraiment... Alors, le métier d'arbitre, surtout en rugby, je pense. C'est vrai que c'est très difficile parce qu'il faut savoir qu'un arbitre, il ne peut se situer bien sûr qu'à un seul endroit du terrain. En sachant qu'il peut se passer plusieurs actions différentes sur le terrain. Il est tenu de suivre l'évolution du ballon, mais par contre, il se peut très bien, je pense à des actes de jeu dangereux, un joueur qui se blesse, par exemple, tout simplement, il tombe sans forcément qu'un autre soit intervenu. Mmh. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très difficile d'arbitrer un match, d'où l'aide des deux juges de touche.
Sophie Lavignas, vous restez avec nous. Dictionnaire du rugby, l'Ovali dans tous ses sens, préfacé par Serge Kampf aux éditions Honoré Champion.
De quel déficit fondamental souffre l'Europe ? Démocratique, culturel, institutionnel, économique ? Le point sur l'Europe en 2009 avec Thierry de Montbrial de l'Académie des sciences morales et politiques, au lendemain de la tenue du G20 dans un contexte de récession mondiale. L'Europe de 2009, forces et faiblesses en temps de crise. Une émission éclairage à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Au fil des pages, ou plutôt au fil des touches, ou des tirs, ou des essais tout simplement, et c'est marqué par Sophie Lavignas avec ce dictionnaire du rugby, l'Ovali dans tous ses sens, aux éditions Honoré Champion, c'est une première parce qu'il n'existait pas de dictionnaire du rugby au sens où Sophie Lavignas, lexicographe, entend le mot dictionnaire, c'est-à-dire dans toute sa rigueur scientifique. 400 pages consacrées à des définitions, 200 pages d'encyclopédie, c'est 1600 entrées, je devrais dire ce sont, parce qu'il faut vraiment le pluriel là, ce sont 1600 entrées qui passionneront pas seulement les spécialistes, mais évidemment tous ceux qui s'intéressent au rugby. Et j'allais dire que ces gens qui s'intéressent au rugby, Sophie Lavignas, sont de plus en plus nombreux quand même. On le voit bien
ouais.
en France. Hein.
Oui, oui, oui.
Ça commence à prendre, on dirait.
Oui, et c'est, j'allais dire, peut-être depuis une quinzaine ou une dizaine d'années, où vraiment il y a un engouement qui est très, très important. J'ai quelques chiffres avec moi qui sont vraiment très révélateurs. Il faut savoir que la Coupe du Monde de rugby, c'est le troisième événement sportif mondial.
Alors avant, il y a la Coupe du Monde de foot.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on met entre les deux, d'ailleurs ? Les JO ? à votre avis? Eh ben voilà, on laisse un point d'interrogation, on ne sait pas, mais le troisième mondial en tout cas.
Le troisième mondial, oui. Faut savoir, au point de vue français cette fois, que le rugby, c'est le deuxième sport le plus médiatisé après le football. Donc ça, c'est vraiment...
Depuis une dizaine d'années, cet engouement.
Ah, l'engouement, oui. Ce qui est vraiment très, très important, c'est le fait que de plus en plus, les chaînes de télévision médiatisent l'événement. Donc, c'est France Télévisions, c'est Canal+, avec Sport+, etc. Donc, c'est vrai que depuis, par exemple...
Si elles le font, Sophie Lavinia, s'il y a une rediffusion, une diffusion directe, c'est bien parce que les chaînes de télévision sentent que l'opinion, que le public existe.
Ah oui.
Et est-ce qu'il y a eu un événement un peu déclencheur qui est à l'origine de cet engouement pour le rugby? Avant la Chabal Mania, bien sûr.
Oui. Je pense que les Coupes du Monde, c'est quelque chose d'entraînant. La dernière Coupe du Monde qui a eu lieu en France, donc en 2007, c'est vrai que les médias en ont... Tous les médias, même ceux qui n'étaient pas spécialisés dans le rugby, en ont parlé. Que ce soit la télévision, que ce soit la presse écrite, les radios... Donc c'est vrai que tout le monde en a parlé, les gens s'y sont mis, il y a eu énormément de personnes qui se sont inscrites dans les clubs, qui ont pris des cartes d'abonnés pour assister aux matchs. Et donc maintenant, on arrive le plus souvent dans les matchs de championnat, donc du top 14 et de Pro D2, on arrive à des stades qui jouent à guichet fermé, chose qui ne se passait pas il y a 20 ans.
Donc un phénomène quand même récent, mais réel, que vous percevez. Est-ce que, c'est peut-être une opinion un peu personnelle que je vous demande, est-ce que vous diriez que si le rugby devient plus populaire, c'est parce que le foot devient un peu plus ennuyeux que ça n'était avant aussi? Parce que le foot est cadré par de très grandes équipes européennes qui, grosso modo, jouent à peu près toutes les unes contre les autres chaque année. Et qu'il y a de moins, finalement, de surprises dans le foot. Et qu'on retrouve peut-être une forme d'authenticité, c'est un terme à la mode, dans le rugby.
Pour ce qui est du foot, honnêtement, je ne maîtrise pas bien. Je suis un petit peu, mais je ne suis pas devenue spécialiste.
Non, mais sans être spécialiste, c'est-à-dire un regard un peu extérieur. Est-ce qu'il y a un effet de vase communicant entre le foot et le rugby?
En tout cas, je pense qu'à la base, originellement, c'est-à-dire qu'au tout début, le rugby, il était vraiment pratiqué par une certaine classe sociale. Il était pratiqué par les aristocrates anglais. Alors que le foot, lui, c'était vraiment plus la classe populaire. Depuis que le rugby devient beaucoup plus médiatisé et qu'il se développe, on a un petit peu toutes les couches sociales qu'il pratique. Et par exemple, là, on parlait d'engouement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on compte à peu près 11 000 spectateurs par journée de championnat. C'est vraiment énorme. Et on a un chiffre, c'est que c'est une hausse de 76% par rapport à la saison 2001-2002.
Voilà, donc là, c'est le chiffre éloquent par excellence.
Ouais. Hein,
et qui montre la tendance. Je prends le mot mêlée, Sophie Lavinias, parce que vous consacrez un drôle de chapitre au mot mêlée.
Oui.
Hein,
c'est un des articles, articles de dictionnaire, c'est-à-dire voilà. Un mot qui est défini, c'est un des articles les plus longs.
Allez, phase de jeu où les 8 avants d'une même équipe se regroupent en se disposant sur 3 lignes successives. La première ligne est composée de 2 piliers d'un talonneur, la deuxième de 2 deuxièmes lignes, les locks, et la troisième de 2 troisièmes lignes, elles, les flankers. Et d'un troisième ligne centre. Les mots que vous donnez sont des mots en vigueur dans le jargon britannique?
Non,
c'est un équivalent?
Oui, exactement. Ce sont des termes qui sont synonymes en français et qui sont utilisés indifféremment. Lorsqu'on écoute un commentaire à la radio ou à la télé, on va utiliser le terme locks pour deuxième ligne. Bon, peut-être que deuxième ligne est plus employée, mais en tout cas, on trouve très régulièrement lock. Encore plus flanqueur. C'est vrai que flanqueur est devenu vraiment le synonyme de troisième ligne, elle.
Ce regroupement est ordonné après un arrêt de jeu ou après qu'une faute mineure a été sifflée. Les 8 avants d'une même équipe font alors face aux 8 avants adverses. On voit bien cette image très impressionnante, une sorte d'araignée sur le terrain. Depuis 1998, une mêlée doit comporter obligatoirement 8 joueurs de chaque équipe. Comment était-ce avant? Ça, c'est nouveau?
Il faut savoir qu'au tout début du sport, du rugby, il n'y avait pas de règles sur le nombre de personnes qui participaient à la mêlée. Donc ça, c'est marqué un petit peu plus loin dans l'article. C'est-à-dire qu'au départ, on pouvait avoir 20 personnes qui faisaient une mêlée sans que ce soit vraiment codifié. Donc c'était vraiment avant la codification des règles. Oui.
Alors ces 8 joueurs se lient les uns aux autres et se penchent vers l'avant sans que la tête et les épaules ne soient plus basses que les hanches. On voit que c'est vraiment très, très...
C'est très codifié. Ouais.
Codifié. Une fois que l'arbitre annonce entrée ou engage en anglais,
engage. Hein,
les 16 avants entrent en contact lorsqu'ils sont prêts et de façon à ce que les têtes des premières lignes soient imbriquées, mais sans que la tête d'un joueur ne soit à côté de celle d'un coéquipier. Chaque pack exerce alors une forte poussée. La mêlée commence lorsque le demi de mêlée de l'équipe qui progressait avant l'arrêt de jeu ou le demi de mêlée de l'équipe non fautive introduit d'un geste rapide le ballon le ballon au sol dans le tunnel. Ça s'appelle donc un tunnel, on voit bien cette image. Le tunnel de la mêlée entre les deux premières lignes adverses, c'est la ligne médiane de la mêlée. Le demi de mêlée adverse doit se tenir sur ou derrière la ligne de hors-jeu qui passe par le dernier pied de son coéquipier le plus en arrière dans la mêlée. Une fois l'introduction effectuée, le talonneur est chargé de faire passer le ballon avec son talon vers l'arrière, d'où le terme de talonner, bien sûr, auquel vous renvoyez d'ailleurs. Les deux packs, c'est-à-dire les 8 avants d'une même équipe, donc 16 avants au total, poussent l'un contre l'autre pour conserver ou conquérir le ballon tant qu'il n'est pas ressorti de la mêlée. Dès la sortie du ballon, c'est-à-dire dès que le ballon quitte les pieds du dernier avant, la mêlée peut se disloquer. C'est là qu'on voit, évidemment, on imagine bien la caméra qui attend de voir. Et d'ailleurs, c'est toujours un moment d'impatience à la télévision de voir quand le ballon va sortir
de
cette mêlée. Et de quel côté, Tout cela est extrêmement technique.
Oui, c'est pour ça que j'ai dû vraiment lire et relire et re-relire les règles pour vraiment me les imprégner, les digérer et ensuite faire une définition qui ne soit pas complètement incompréhensible. Et voilà.
Alors vous renvoyez ensuite à plusieurs articles encyclopédiques. Il y en a 6 qui renvoient à la mêlée, c'est-à-dire qu'il y a la définition plus...
Voilà, et après je donne justement ce qu'on disait tout à l'heure au niveau du nombre de joueurs qui participaient à la mêlée. Il faut savoir que c'est uniquement en 1922 que la première ligne doit être composée obligatoirement de 3 joueurs. Parce qu'avant 1922, elle pouvait être formée par un nombre quelconque de joueurs.
Alors les essais, je dis juste un mot peut-être sur les essais, parce que bon, évidemment, il y a quantité de mots auxquels on pourra se reporter. Il y en a 1600 entrées dans ce dictionnaire du rugby, qui, je le rappelle, est une première, puisque ça n'existait pas auparavant, un dictionnaire qui regroupe les termes et qui soit analysé de manière technique. Alors au mot essai, qu'est-ce que vous avez mis? On regarde cela. Il y a aussi évidemment une pleine page très importante. Je mentionne simplement les premières phrases. Action d'un ou plusieurs joueurs de l'équipe attaquante consistant à faire un toucher à terre en premier dans l'embut adverse. Le toucher à terre peut se faire de deux façons différentes, soit en touchant le sol avec le ballon, soit en appuyant sur le ballon. On pourra se reporter à toute la définition et à toutes les règles que vous avez lues et relues, Sophie Lavignas. Évidemment, on pense aux essais, l'essai qui est marqué dans le coin et puis l'essai qui est marqué à l'intérieur, enfin au centre du terrain derrière... Deux types d'essais différents.
Ah, deux types d'essais différents. C'est d'ailleurs pour ça que l'article essai est également très long, parce que, outre la définition, j'ai tenu à donner une définition pour ce qu'on appelle des collocations, c'est-à-dire un terme qui est utilisé dans une, ce qu'on pourrait appeler une expression. Par exemple, accorder un essai, essai collectif, essai de pénalité, essai entre les poteaux. Donc, à chaque fois que j'ai ce type d'expression, on va dire, je donne une définition. Donc c'est vrai que, par exemple, un essai de débordement est différent qu'un essai sur la lancée.
Alors, on va peut-être terminer, si vous le voulez bien. J'ai pensé simplement peut-être un peu voyager avec ce dictionnaire du rugby aussi. On pense aux All Blacks, on pense aux Springboks, aux Wallabies. Est-ce qu'on pratique le rugby de la même manière? Est-ce que ça complique les choses de s'adresser à des nations qui sont très très fières de leur rugby et qui ont peut-être des particularités? Est-ce qu'il faut aller voyager en même temps dans le monde du rugby, en Afrique du Sud par exemple? Est-ce que c'est très différent le rugby?
Alors déjà, ce que je dirais avant tout, c'est que le dictionnaire du rugby nous permet de voyager. Parce que dans la partie, ce que moi j'ai appelé la partie encyclopédie, je présente chacun des pays qui a participé au moins une fois à une Coupe du Monde. Donc en fait, on a justement l'Afrique du Sud, on a l'Australie, on a la Nouvelle-Zélande, mais on a des pays qui sont beaucoup moins connus dans le monde du rugby. Je pense par exemple à l'Espagne, je pense au Portugal, qui ont participé à une Coupe du Monde. Mais ce sont des nations majeures dans le sens où elles ont réussi à atteindre le niveau du Coupe du Monde, mais on ne les retrouve pas à chaque édition de la Coupe du Monde. Et pour revenir à votre question, c'est vrai que chaque pays a sa façon propre de pratiquer le rugby. Vous parliez de la Nouvelle-Zélande. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, les Néo-Zélandais et les Maoris naissent quasiment un ballon à la main. C'est-à-dire que c'est vraiment le sport roi. Et pour eux, c'est vraiment une identité. Enfin, si jamais ils ne jouent pas au rugby, à la limite, c'est presque pas des Néo-Zélandais. Donc c'est vraiment une culture, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en eux. Et ils sont extrêmement fiers de chacune des équipes de rugby.
Les Sud-Africains aussi, avec cette portée politique du rugby. On se souvient bien sûr du film avec Nelson Mandela. Invictus en 1995. Donc là, il y a une dimension politique.
Il y a une dimension politique, oui. Effectivement, Nelson Mandela s'est rendu compte qu'il pouvait, grâce au rugby, plaider justement sa cause. Et voilà. Le rugby a réussi à réunifier finalement...
Deux univers.
C'est ça, deux univers, deux mondes complètement différents.
Sophie Lavignas, comment se fait-il que le rugby, c'est peut-être un jugement tout à fait téméraire que je porte, mais c'est un sport très pratiqué dans le monde anglo-saxon. On pense évidemment à l'Angleterre, etc., l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles. On ne pense pas tellement aux États-Unis.
Non, de toute façon, il faut savoir que le rugby est avant tout un sport. Enfin, ça a été créé donc dans la ville de rugby. C'est le nom de la ville qui a donné le nom du sport.
En Angleterre?
Oui, et après, ce sont justement soit les étudiants, au moment justement des nombreux voyages, qui ont un petit peu implanté le rugby un petit peu partout. Il y en a aux États-Unis, il y en a également au Canada. Ils ont pratiqué aux Coupes du Monde.
Mais il y a l'impression qu'il y a un peu une rupture un peu culturelle, comme avec le football d'ailleurs, le football classique, qui est certes pratiqué aux États-Unis, mais les États-Unis ne se distinguent pas vraiment sur ces points-là. On a l'impression que ça s'est répandu dans les ex-colonies britanniques, mais que ça n'a pas tellement suivi du côté de l'Atlantique, du côté américain.
Ils sont tellement axés sur le football américain, j'allais dire, il n'y a presque pas de place pour le rugby.
Ouais. Et ça a pris dans le monde latin quand même, ça prend dans le monde latin, vous citiez l'Italie peut-être aussi.
Oui, bien sûr, depuis 2000 participe au tournoi des Six Nations, donc avant 2000 c'était le tournoi des Cinq Nations, donc oui, bien sûr, l'Italie est devenue une grande nation du rugby. Pour en revenir aux pays latins, justement, peut-être que le rugby véhicule des valeurs qui sont propres justement aux latins, la fraternité, la convivialité, voilà, c'est peut-être toutes ces vertus collectives qui intéressent justement les latins.
Et moins les valeurs d'individualité qui domineraient dans le monde anglo-saxon, c'est ce que vous sous-entendez ?
Ah non, pas du tout. Non, parce que les équipes anglo-saxonnes travaillent à la fois sur l'individualité, mais également sur la collectivité.
Justement, on a le sentiment que c'est un sport qui réunit des mondes très différents, nord-sud. Le sud est très présent aussi dans le rugby, les grandes nations du sud. Et ce sont peut-être des événements justement qui les mettent en valeur, les Coupes du monde de rugby qui mettent en valeur ces pays du sud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sophie Lavignas, pour ce dictionnaire du rugby. 1600 entrées, faut-il le rappeler, 400 pages consacrées aux définitions, 200 consacrées à l'encyclopédie. C'est préfacé par Serge Kampf. L'ovalie dans tous ses sens. Serge Kampf est un grand mécène du rugby en France. Un mot quand même.
Oui, bien sûr, un mot pour remercier ce grand monsieur qui a eu l'extrême gentillesse de préfacer mon ouvrage. Effectivement, c'est le dirigeant de Capgemini, mais c'est avant tout un grand mécène du rugby. C'est avant tout un passionné, donc comme moi, et je pense que c'est ce qui nous a rassemblés sur ce projet qui maintenant a vu le jour. C'est-à-dire qu'on est animés tous deux d'une même passion, c'est-à-dire le rugby, toutes les valeurs justement que véhicule ce sport. Et quand je lui ai envoyé justement le manuscrit pour lui demander s'il était d'accord pour préfacer l'ouvrage, dans un premier temps, il m'a dit qu'il avait hésité parce qu'il trouvait que c'était pas très légitime que ça revienne à lui, justement, de préfacer cet ouvrage. C'est ce qu'il dit d'ailleurs sa préface. Hein. Quand on m'a proposé d'écrire une préface pour ce dictionnaire du rugby, je me demandais quelle était ma légitimité dans un tel exercice, convaincu qu'il y eût mieux convenu à des experts comme Pierre Conquet ou Pierre Villepreux, à des chantres du rugby comme Denis Lalanne ou Denis Tillinac, à l'un de ces grands journalistes que sont Richard Escaut, Jacques Verdier, Jean Cormier et tant d'autres, ou encore à des poètes comme l'ami Jean-Pierre Rive bien sûr, et Philippe Guillard. Mais finalement, j'ai compris que mes scrupules n'avaient pas lieu d'être, pour la simple et bonne raison que ce dictionnaire avait été fait pour moi.
Voilà, Serge Kampf, qui est l'un des mécènes du rugby et le préfacier de votre ouvrage, le dictionnaire du rugby. Si vous voulez savoir ce que veulent dire autruche, éléphant, lion, mer, terre promise, béchigue, raffuté, bout de bois, tout cela figure dans ce dictionnaire du rugby publié aux éditions Honoré Champion. Merci Sophie Lavignas.
Merci à vous. Au revoir.